Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Chili, la démocratie assassinée, récit de la chute de Salvador Allende. Il y a 45 ans, le mardi 11 septembre 1973, c'est par un coup d'état militaire que le général Augusto Pinochet a renversé le socialiste Salvador Allende, plongeant le pays dans la dictature. Pourtant, cet homme avait de grandes ambitions pour son pays. Juste après son élection, le 4 novembre 1970, Allende entreprend des réformes majeures. Il nationalise les secteurs clés de l'économie chilienne et distribue des terres aux paysans. Mais ces nouvelles mesures déplaisent aux riches familles chiliennes qui voient d'un très mauvais œil l'expropriation de leurs terres. Très vite, des mouvements contestataires émergent, les grèves s'intensifient et le pays est plongé dans une grave crise économique. Salvador Allende est de plus en plus isolé dans son pays, mais également sur la scène internationale. Car rappelons-le, le monde alors est en pleine guerre froide et les États-Unis refusent de laisser une menace marxiste s'installer sur le continent voisin, leur chasse gardée, et Washington est prêt à tout. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Yvan Levaille, qui a rencontré Salvador Allende à Augusto Pinochet lors d'un reportage au Chili à l'occasion de la première fête du travail du Parti Socialiste Chilien. C'était le 1er mai 1971. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adèle Imbert, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
C'est peut-être la dernière possibilité que j'ai de m'adresser à vous. Les forces armées aériennes ont bombardé les antennes de Radio Portales et Radio Corporation. Mes paroles n'expriment pas l'amertume, mais la déception. Face à ces événements, je peux dire aux travailleurs, je ne renoncerai pas.
Septembre 1973, Santiago du Chili, 9h du matin. Dans son bureau du palais présidentiel, Salvador Allende s'adresse une dernière fois au peuple chilien sur Radio Magallanes, la seule qui émet encore. Il vient de recevoir un communiqué. L'armée est en train d'organiser le coup d'État tant redouté dans le pays. Et c'est Augusto Pinochet, l'homme de confiance du président qui est aux manettes. Allende venait tout juste de le nommer commandant-chef des armées. Dehors, les chars d'assaut foncent vers le palais de la Moneda. Les blindés remontent les grandes artères désertes de la capitale. En quelques heures, Santiago est devenu une ville fantôme. À l'abri, derrière les tanks, les soldats pointent leurs mitraillettes vers le palais. Des tirs retentissent de tous les côtés. Soudain, les avions de chasse balaient le ciel dans des sifflements stridents et commencent à bombarder le palais présidentiel. Les vitres explosent avec fracas. Une épaisse fumée noire monte lentement vers le ciel. Il est 11h du matin, la Moneda est en flammes, une chape de plomb s'abat sur la ville et sur le pays. Replié dans son palais, le président Allende et ses derniers soutiens prennent les armes et organisent la résistance dans l'urgence. Les canalisations ont explosé, le rez-de-chaussée déjà inondé et la poussière des bombardements rend l'air irrespirable. Soudain, la radio lance un ultimatum au président. Les putschistes lui donnent 3 minutes pour quitter le palais et se rendre. Salvador Allende s'empare alors du téléphone, casque vissé sur la tête et mitraillette en main. Sa réponse est sans appel, il ne se rendra pas. Pinochet, lui, se délecte du spectacle. Désormais à la tête de la junte militaire, il se tient informé minute par minute du bon déroulé des événements que lui communique l'amiral Patricio Carvajal. Écoutez bien l'archive qui va suivre. La qualité sonore laisse à désirer, mais sa saveur est unique. Il s'agit de l'échange téléphonique entre le général Pinochet et l'amiral au moment même où le palais de la Moneda tombe aux mains de la junte militaire. Un extrait diffusé sur France 3 dans un documentaire intitulé « Le dernier combat d'Allende ».
Allende est à la Moneda, alors il faut être prêt à lui tomber dessus. Il vaut mieux tuer la chienne avant qu'elle n'ait des petits.
Il offre des pourparlers.
On maintient l'offre pour le sortir du pays et on fait tomber l'avion en vol.
Confirmé.
Comment a-t-on pu en arriver là? Comment le président Allende a-t-il pu être abandonné de tous, trahi par Pinochet? Pour le comprendre, il faut revenir 3 ans en arrière. Le 4 novembre 1970, jour de l'élection de Salvador Allende.
Ce n'est pas la victoire d'un homme, mais la victoire du peuple et la victoire du Chili. Et c'est pour cela que le 4 novembre, le peuple entrera avec moi au palais de la Moneda.
Novembre 1970, la foule est en liesse. À 62 ans, Salvador Allende vient d'être élu président de la République chilienne. Son parti, l'Unité Populaire, parti socialiste, c'est le parti porteur d'espoir dans un pays miné par les inégalités. L'homme monte sur la scène, ovationné par le peuple. Sa grosse moustache parfaitement taillée, ses fameuses lunettes aux larges montures, lui donnent un air sympathique. Il dégage une bonhomie naturelle. À ce moment précis, Allende en est certain, c'est une nouvelle page du Chili qui s'écrit. Il est le seul et presque le premier président socialiste en Amérique du Sud élu démocratiquement.
Nous n'allons pas chercher des modèles ailleurs. Nous avons trouvé un chemin à nous, le chemin du Chili. En accord avec la réalité chilienne, nous ferons un gouvernement pour le Chili, l'homme du Chili, son histoire, ses traditions, ses coutumes.
Oui, mais la victoire est fragile. Le parti d'Allende a obtenu à peine plus du tiers des suffrages. Seulement quelques dizaines de milliers de voix le séparent de ses deux principaux opposants, Jorge Alessandri, soutenu par la droite conservatrice, et Radomiro Tomic, chef du parti de centre-gauche des chrétiens démocrates. Allende en est bien conscient, il n'a pas le droit à l'erreur. Il met en place un gouvernement dit de coalition. L'Unité Populaire, elle rassemble toutes les franges de la gauche, socialistes, communistes et partisans de l'extrême-gauche, une sorte de gauche plurielle. Côté sécurité, le président sait qu'il peut compter sur les services de police pour maintenir l'ordre, et notamment sur un certain Augusto Pinochet, qui est alors commandant en chef de la ville de Santiago. Il apparaît clair qu'Allende n'a rien à craindre de ce général effacé qui a gravi les échelons avec régularité et même brio. L'objectif du nouveau président est clair, il veut allier socialisme et liberté et surtout, oui, surtout, se montrer proche de son peuple, accessible. Ses militants l'arrêtent même dans les rues de Santiago.
Donc mon père s'arrête et à travers la fenêtre, il lui dit « Camarade, est-ce qu'on pourrait faire une photo ?» Et Allende, il était avec ses gardes du corps, tout en traversant la rue pour venir vers nous. Il dit à mon père, il dit « Si, por supuesto, pero hagamos una foto en familia. » Il dit « Oui, bien sûr, mais faisons une photo de famille. » Donc, on sort de la voiture et on se met là en place. Donc, il y a Allende au centre de la photo. À sa gauche, il y a ma mère avec mon jeune frère dans ses bras. Juste devant Allende, Allende pose ses mains sur mes épaules. La photo, à ce moment-là, était un trophée. Puisque mes parents étaient très actifs dans tout le mouvement et le gouvernement de l'Unité Populaire, ils étaient militants eux-mêmes, ils participaient activement à une série d'actions qui avaient provoqué le gouvernement d'Allende. Donc avoir une photo avec Allende, c'était glorieux, quoi.
Palabra cobra vida cuando entramos a la mar la misma barcaza que antes nos privó de libertad, hace el camino de vuelta a Iquique nos llevará. En el destierro lejano quemaba una interrogante: ¿cómo es la libertad? No puedo el rostro encontrarle. ¿Cómo es la libertad? No puedo el rostro encontrarle. La libertad eres tú, son tus ojos y tu pelo, es la leche de los niños, es la bandera del pueblo, es buenos días, señora, es el tranvía o el cerro, es el canto esperanzado, es Neruda en el desvelo. Libertad es el papel, complemento de mis versos, es el abuelo sentado, la pala del pirquinero, es el aire, son las flores, es el viaje de regreso, es el marinero errante o el que se quedó en Quintero. Es la noche y es el vino, es el mantel recién puesto, es el hombre trabajando en la fábrica o en el puerto, es la esencia de los libros, es el silbido del viento, es no poder decir nunca que la libertad ha muerto, es no poder decir nunca que la libertad ha muerto.
Qui suivent son arrivée au pouvoir, le président Allende tient ses promesses et prend des mesures fortes pour s'assurer la confiance et le soutien des classes populaires. Il augmente les salaires minimums, organise la distribution de lait à tous les enfants chiliens et met en place une grande réforme agraire pour rendre la terre à ceux qui la travaillent, les paysans. Avec son ministre de l'Agriculture, Jacques Chonchol, il veut leur donner plus d'indépendance. Les terres seront redistribuées et le travail sera encadré non plus par les riches propriétaires terriens, mais par l'État sous forme de grandes coopératives. Allende espère ainsi mettre fin à la lutte des classes. Mais très vite, les critiques le rattrapent. Les riches chiliens s'inquiètent. Ils pensent que ces réformes menacent leurs richesses et leurs biens. Beaucoup décident même de quitter le pays pour placer leur argent à l'étranger, de l'autre côté de la frontière, en Argentine.
À la frontière, au cœur des Andes, on se bouscule. Et pour certains, la liberté d'entreprise du moins, est au bout d'un tunnel.
Au point où en sont les choses, j'ai peur.
Peur de quoi ?
Des gens dont les capitaux fuient et peur que l'économie chilienne s'effondre.
Vous ne quittez pas le Chili, monsieur?
Non, nous allons sur le promenade.
Sans rapport avec les événements?
Sans rapport, absolument.
C'est sûr?
Absolument, c'est sûr, oui.
Très bien.
Seulement une promenade.
Très bien, merci.
Alors, saludos a Francia.
Merci.
Vive la France!
Quant aux riches propriétaires terriens qui restent au Chili, ils voient leurs champs morcelés, distribués aux petits paysans avec la mise en place de la grande réforme agraire dans tout le pays. José, propriétaire terrien, est interrogé par un journaliste de l'ORTF.
Je crois que cette réforme n'est pas une solution, au point de vue technique. Parce que le paysan chilien est très individualiste et lui, ce qu'il voulait, c'était la propriété de la terre et que son travail soit pour lui. L'agriculture collectiviste n'est-ce pas, ne lui donne pas satisfaction.
Comment est-ce que cette réforme va tourner? Quels vont être les résultats, à votre avis?
Je crois qu'ils ne vont pas être bons du tout. Et je crois que c'est à nous autres, les agriculteurs qui resteront avec quelques réserves, quelques hectares, qui devront, par notre efficacité, contribuer au manque de production du reste. Je crois que la catastrophe alimentaire va être de telle grandeur, n'est-ce pas, qu'on aura besoin de nous de toute façon.
Effectivement, au printemps 1971, le pays plonge dans une crise grave. Les Chiliens manquent de tout.
Crise économique, catastrophe économique. Le ravitaillement est difficile, c'est indéniable. La viande de bœuf, le lait en poudre, les œufs, le café, le sucre font défaut. Les médicaments, les pièces de rechange. On fait la queue devant les magasins d'alimentation. Les municipalités de banlieue organisent des distributions parcimonieuses d'aliments au prix fixé par le gouvernement. Le Chili devrait importer cette année, s'il en avait les moyens, 300 millions de dollars de produits alimentaires. L'opposition incrimine la réforme agraire. Commencée voici 8 ans par les démocrates chrétiens, elle a été accélérée sous le gouvernement d'Allende par M. Chonchon. En un an, toutes les propriétés de plus de 80 hectares ont été nationalisées pour permettre aux petits paysans, 28% de la population, d'accéder à la terre.
Allende pense alors relancer l'économie en misant sur une industrie clé du pays, le cuivre. Pour reprendre le contrôle de la production du précieux métal, il nationalise les mines. Et c'est un choc pour les États-Unis qui les exploitent allègrement et depuis longtemps.
Le président chilien Allende a décidé par décret de nationaliser les mines de cuivre du pays. Les Américains, je le rappelle, ont investi dans ces mines plus de 700 millions de dollars. On le comprend, ces mines de cuivre fournissent la troisième production mondiale de cuivre après les États-Unis et l'Union soviétique. Au total, 840 millions de tonnes pour 1971. C'est là une source de richesse considérable pour le Chili. 80% des devises chiliennes proviennent de l'exportation du cuivre.
Salvador Allende est bien décidé à rompre avec l'impérialisme du Nord. À la Maison-Blanche, on s'inquiète bien sûr de ce retournement de situation. Richard Nixon, président des États-Unis, est furieux. On ne doit pas laisser l'impression en Amérique latine qu'il est possible de s'en tirer ainsi. À travers le monde, c'est devenu trop à la mode de botter les fesses, lance-t-il lors d'une réunion au Conseil national de sécurité. Nous sommes en pleine guerre froide et le président américain redoute l'effet domino dans les autres pays d'Amérique du Sud. Cela fait d'ailleurs bien longtemps qu'Allende est dans le collimateur du gouvernement américain et de ses services secrets, la CIA. Quelques années plus tard, Richard Nixon avouera l'implication américaine dans la crise chilienne à nos confrères lors d'une interview pour Antenne 2.
La CIA a commencé dès 1963 et 64 à lancer des fonds particulièrement importants au Chili, pas tellement pour corrompre certains membres du gouvernement chilien, mais pour appuyer certains candidats qui étaient sur des listes anticommunistes. 4 millions de dollars ont été investis par l'administration Johnson dans deux élections au cours desquelles Allende avait perdu.
Les aides au Chili sont discrètement réduites ou supprimées. Les entreprises américaines limitent leurs investissements. La Banque mondiale n'accorde plus aucun prêt. Une seule exception toutefois, l'aide militaire, maintenue. Le but de la manœuvre n'est pas difficile à déceler. Il s'agit bien d'organiser l'asphyxie économique du pays et favoriser l'armée. Et le plan des Américains fonctionne. Le Chili s'embourbe dans la crise. Dès l'hiver 71, c'est la pénurie à Santiago. Dans les beaux quartiers de la capitale, des centaines de femmes de la bourgeoisie et leurs employés descendent dans la rue et se réunissent Plaza Baquedano, en plein cœur de la ville. C'est une bien étrange manifestation qui s'organise.
En brandissant leurs casseroles, les fameuses casseroleuses, ménagères et grandes bourgeoises rassemblées, protestaient contre la vie chère. L'inflation chilienne, cause pour les uns, conséquence pour les autres de la situation politique, l'inflation chilienne a battu et bat encore aujourd'hui tous les records du monde.
Par vagues successives, les femmes se dirigent vers le palais de la Moneda au moment même où le président Allende reçoit Fidel Castro. Le dirigeant cubain est en visite officielle. Et c'est le général Pinochet qui est chargé de l'ordre public. Il tente de faire face aux manifestations d'opposition récurrentes. La marche des casseroles vides fait la une des journaux internationaux. C'est un superbe coup de pub pour l'extrême droite qui soutient la manifestation secrètement financée par la CIA. Dans ce contexte de crise généralisée, la presse ne rate pas une occasion de déstabiliser le pouvoir d'Allende. Au printemps 72, quelques mois après la visite de Fidel Castro dans le pays, la mystérieuse affaire des colis de l'avion cubain fait la une. Les journalistes lancent en effet une rumeur de trafic d'armes, acheminées secrètement de Cuba par des proches collaborateurs du président. Mensonge, complot, le ministre de l'Intérieur en est la première victime. Gouvernement déstabilisé, pays en crise, isolement international, Salvador Allende est cerné. Le 11 avril 1972, une grande manifestation est organisée à Santiago, encadrée de près par les milices de Patria y Libertad, le parti d'extrême droite. Plus de 200 000 personnes sont réunies pour protester contre le gouvernement. Quelques jours plus tard, les militants de l'Unité Populaire répliquent. Ils mobilisent le double de sympathisants dans la capitale. Le parti de Salvador Allende veut ainsi montrer l'unité de la gauche dans le pays. Oui, mais très vite, la réalité éclate au cours de la manif. Les troupes sont plus divisées que jamais. Le MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire et les mouvements d'extrême gauche n'attendent plus rien de Salvador Allende. Et ils ont une certitude. La révolution passera par les armes. Dans les bidonvilles de Santiago, le MIR mobilise les populations.
Vous voilà dans un bidonville du MIR, mouvement de la gauche révolutionnaire, enclave gauchiste où la police ne se hasarde pas. Le responsable de ce bidonville s'appelle Victor Toro, c'est la bête noire des communistes, un agent de la CIA à les en croire. Il a été mineur puis marin-pêcheur, il est malade, 42 fièvres, la misère est son lot, son univers et, qui sait, son atout.
Le programme de l'unité populaire n'est pas le programme du MIR, c'est un programme d'esprit réformiste. Mais dans la mesure où il va tenter une transformation du système capitaliste, ces réformes, comme la nationalisation du cuivre, la nationalisation des banques, nous les perdonnerons jusqu'à des ultimes conséquences.
Dans ces quartiers excentrés de Santiago, le marché noir se développe. Le pays n'est plus approvisionné et la clandestinité est devenue la seule solution pour trouver les produits de première nécessité. Au mois de novembre 1972, Salvador Allende n'a plus le choix. Pour faire face à la situation catastrophique et à la grève générale des transports et des camionneurs qui bloquent les approvisionnements, il opte pour la solution radicale. Carlos Prats, commandant en chef des forces armées, devient ministre de l'Intérieur, avec pour mission de rétablir l'ordre dans le pays, et vite. Les élections législatives approchent, l'enjeu est crucial.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jamais autant que ce soir, l'expérience du socialisme à la chilienne ne s'est trouvée sur le fil du rasoir. Observée du monde entier, comme une sorte de curiosité politique, cette tentative du président Salvador Allende ballotte et le chef de l'État lui-même perd le soutien de quelques-uns de ses fidèles les plus proches. Le dernier en date, le grand patron de la défense et des armées chiliennes, son vieil ami, le général Carlos Prats, vient de démissionner de ses fonctions. Du coup, c'est toute l'armée chilienne qui risque de basculer contre le pouvoir. Un pouvoir auquel s'attaquent déjà les syndicats, l'opposition chrétienne-démocrate, tout cela dans un climat social où la moindre incartade peut mettre le feu aux poudres.
Le 23 août 1973, quelques mois après sa nomination, la crise étant devenue ingérable, le général Prats, en effet, abandonne ses fonctions de ministre de la Défense. Nouveau coup dur. Comment le président Allende va-t-il désormais surmonter cette crise et affirmer son autorité? Le départ de Prats le fragilise, car c'est lui qui l'a aidé et soutenu après l'échec des législatives, et c'est surtout lui qui a réprimé la révolte après une première tentative de coup d'État, le 27 juin 1973, aidé par son chef d'État-major, Pinochet. Pour l'Unité populaire, ce dernier figure parmi les généraux les plus sûrs. Il est le dernier espoir du président Allende qui le nomme commandant en chef des armées. Le président Allende ne le sait pas encore, mais il vient de signer son arrêt de mort. Avec Augusto Pinochet à la tête des armées, soutenu par les États-Unis, tout est en place pour renverser le pouvoir. Allende croit encore qu'il peut compter sur ses proches collaborateurs, à commencer par ce général qui est en fait le cheval de Troie des Américains au Chili. Inquiet de la situation du pays, le président lui confie qu'il compte organiser un référendum. Si le peuple souhaite son départ, il laissera sa place. Oui, il est prêt à se retirer pour assurer le bonheur des Chiliens. Pinochet lui conseille d'attendre le 11 septembre pour consulter le peuple. Le 11 septembre 1973.
Allende est mort. Mort dans le palais de la Moneda, que les quatre putschistes en chef ont fait bombarder. L'armée a basculé après 3 mois de crise, au cours desquels le gouvernement d'unité populaire, incapable d'imposer une politique unitaire, avait assisté à la dégradation des rapports entre les deux blocs de la société chilienne, celui des nantis et celui des pauvres, des exploités. Le 11 septembre au matin, le Chili a de nouveaux maîtres. Des maîtres qui ont décidé de renverser par la force un gouvernement légal. C'est le coup d'État.
Il est environ 14 heures lorsque les soldats putschistes envahissent le palais présidentiel. Au premier étage, Salvador Allende gît dans une mare de sang, mitraillette à la main. Le général Palacios, qui a commandé l'attaque du palais présidentiel, constate le décès. Et il envoie un message, court, simple, à l'état-major, brutal. Mission accomplie, Moneda occupé, président mort. Suicide, assassinat, balle perdue, la rumeur court, anxiogène. Et très vite, le peuple chilien prend la mort du companero.
Salí a la calle.
Je suis sortie de chez moi. Je vivais dans le centre de Santiago, tout près du palais de la Moneda. J'ai commencé à entendre les avions. Les ouvriers étaient en chemise dans la rue. Ça m'a marqué parce qu'en septembre, il fait froid au Chili. Ils criaient « Allende, Allende, Allende ». Plus tard, une amie m'a appelé pour me dire
«
Delfina, ils ont tué le président Allende ». J'étais assise en bas de l'escalier, accrochée au téléphone. La vie s'écroulait.
Le lendemain, 12 septembre 1973, 10h30, des soldats de la junte viennent chercher Madame Allende pour l'enterrement de son mari. Il faut faire vite et surtout rester discret. Un avion cargo est affrété, le corps du président est emmené à Villa del Mar, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Santiago. Madame Allende ne verra jamais le corps de son mari enterré dans la plus grande discrétion et surtout, surtout, très vite. Le soir même, le général Pinochet prête serment à l'école militaire de Santiago. Il dit au peuple chilien qu'il veut lutter, je le cite, « pour que l'étoile du Chili brille de nouveau après 3 ans de cancer marxiste ». Pour accélérer la répression, la junte fait passer la loi nationale autorisant le recours à la force armée. Le pays est en état de siège. En moins de 72 heures, le Chili bascule dans le cauchemar, dans la dictature. Et Augusto Pinochet endosse son rôle. Lui, le général effacé, qui parlait avec modération, hurle désormais. Et son discours n'est plus qu'imprécation, menace. Dans les rues, la répression est féroce partout. Les militants de l'Unité populaire, les sympathisants et les libéraux sont pourchassés, torturés, exécutés. Et les passants sont fouillés. Des milliers de suspects sont arrêtés et enfermés au stade national, entassés dans les cages de foot, amassés comme du bétail dans les tribunes. José Manuel, témoin, est arrêté dans son usine le lendemain du coup d'État et emmené au stade. Il raconte dans un entretien accordé à l'AFP.
Il y a un dicton ici qui dit « un homme ne pleure pas ». Mais si, il pleure. Ici, nous avons pleuré. Pas par lâcheté, mais pour beaucoup de choses. la faim, le froid, le fait de penser à nos proches. Ici, la seule chose que nous pouvions voir quand ils nous sortaient dehors, c'était le ciel et le gazon du stade.
Le stade est devenu une prison à ciel ouvert, dont beaucoup ne sortiront jamais. Au nom de la lutte contre le communisme et de la défense de la patrie, la junte militaire tue des milliers de Chiliens. Et Pinochet accuse la presse internationale d'exagérer les faits et le nombre des morts.
Écoutez, je dirais qu'il y a une cinquantaine de morts environ. Pas plus. Au maximum, disons peut-être 200 morts. Mais pas plus. Je ne sais pas combien exactement.
Peu de temps après, Pinochet met en place le plan Condor qui vise à éliminer le marxisme, à traquer tous les opposants. Les autres dictatures militaires du contingent se joignent à cette chasse aux sorcières, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, toujours soutenus par les États-Unis. Entre 50 000 et 70 000 meurtres et disparitions sont recensés, meurtres d'État, meurtre froid, le plus impardonnable de tous les crimes. Depuis 28 ans, le Chili, à l'instar de beaucoup de pays d'Amérique du Sud, a renoué avec la démocratie. Mais 45 ans après le renversement de Salvador Allende, les cicatrices de la dictature ne sont pas refermées. Beaucoup de Chiliens vivent encore avec le souvenir de ces années noires.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo es claro. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbina, ladrido, chubasco. Y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y lo está alumbrando la gruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu casa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto
del cerebro humano. Cuando miró el bueno tan lejos del malo, cuando miró al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, todos los materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto.
France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la chute de Salvador Allende avec notre invité Yvan Levaille. Bonjour.
Bonjour.
Yvan Levaille, journaliste, la radio fait homme. Vous avez donné toute votre carrière à la radio. Enfin, il y a eu l'Express, mais après Europe 1, et France Inter, et France Culture. Enfin, la radio, voilà.
Et l'homme, France Musique.
Et France Musique. L'homme de radio par excellence. Alors, il se trouve qu'en 1971, vous partez au Chili pour un reportage. En fait, vous accompagnez Edgar Faure, responsable politique de premier plan, hein, de la 4e République et aussi du début de la 5e, pour faire un reportage. Et là, vous rencontrez et Allende et Pinochet, hein, les deux.
Et oui, bien. Alors, et Prats, qui est le général dont vous avez parlé, et Chanchol aussi, que j'ai vu travailler dans son bureau. Mmh. Oui.
Bon, alors Salvador Allende, racontez-nous cette rencontre, parce que, je disais tout à l'heure, je vous le disais hors antenne, cette histoire est émouvante, et on ne peut que la dire avec émotion. Donc on imagine cet homme avec sa moustache, son air bonhomme, ses lunettes, et on a envie de savoir quel homme il était, quel contact humain vous avez eu avec lui. Oui.
D'abord, je dois dire que l'émission qu'on vient d'entendre, et puis la partie de l'émission, et puis le « Gracias a la vida », ça rappelle ce qu'ont été mes pleurs. J'étais dans un taxi quand j'ai appris la nouvelle entre Nice et Marseille, avec un très grand résistant français, Jean Friedman, et on a appris la nouvelle de la mort d'Allende. Mmh. Et on pleure pas souvent, les journalistes, on pleure pas. Mais là, je dois dire que j'ai pleuré dans les bras de Jean Friedman, et il a pleuré aussi. Voilà. Et on pleure pas souvent quand on fait ce métier.
Oui.
J'y insiste.
On peut toujours garder cette distance.
Je me souviens de larmes à la mort de Sadat, à la mort de Rabin, à la mort de Kennedy et à la mort d'Allende, parce que Allende, c'est celui dont on a le moins parlé et pour lesquels les Français ont été très généreux, parce que s'il y a un pays qui a accueilli un nombre considérable de réfugiés chiliens, c'est la France. Il faut dire qu'on avait des points communs. Il y a des points communs dans ces deux pays. Vous vous rendez compte qu'avant Pinochet, le Chili avait vécu 90 années de république, de régime démocratique.
90.
Et, oui. Et quand on disait à nos interlocuteurs, moi j'ai dit à beaucoup de gens, mais vous n'avez pas peur de l'armée, vous n'avez pas peur des Américains qui sont présents et qui risquent de vous tomber dessus parce que Castro n'est pas loin et parce que les États-Unis d'Amérique ont peur de la diffusion du castrisme, mais pas seulement en Amérique du Sud, de la diffusion aussi de la social-démocratie, parce que c'était ça, c'était pas un rouge Allende, c'était un homme extrêmement modéré. Alors voilà, je pars avec Edgar Faure, qui reste pas longtemps. Edgar Faure voulait aller au Pérou voir des capitaines qui avaient pris le pouvoir et qui étaient des capitaines de gauche, et il est arrivé, il a passé 3 jours... Et c'est avec lui que je suis entré à la Moneda, et c'était au moment du 1er mai
71.
De l'Unité Populaire.
Oui, c'est ça.
1er mai 71, une année absolument incroyable. Et donc, l'ensemble des Français s'intéressaient à ce qui se passait au Chili, parce que d'une certaine façon, il y avait eu le congrès d'Épinay avec Mitterrand,
oui.
Et il y avait un socialiste qui devenait président de la République chilienne et qui avait tenté 4 fois sa chance et qui l'avait raté 3 fois.
Donc c'était une icône de la gauche internationale, social-démocrate,
pas
socialiste.
Pas encore, mais il était radical, il était franc-maçon et il était très modéré. Ouais. Il avait été ministre de la Santé, parlementaire, etc. Et on se disait, ah, voilà en Amérique du Sud, qui est sous l'œil, le regard des Américains et des Russes depuis l'affaire de Cuba, et on se disait, quel est cet homme-là? Et moi, grâce à Edgar Faure, on est reçu à la Moneda, et le franc-maçon Allende prend Edgar dans ses bras, l'embrasse, et je me trouve tout seul et à côté de lui, jeune journaliste, et Allende m'embrasse aussi. Alors je veux pas faire du sentiment, mais je me dis quand même, quand 2 ans et quelques mois après, le 11 septembre 73, j'apprends que cet homme-là a été tué par une brute, j'en profite pour dire d'origine française.
Pinochet ?
Pinochet.
Ben oui, le nom d'ailleurs.
La famille était d'origine française. Et Allende sa famille était basque. Donc c'est presque une histoire française, l'histoire d'Allende, vous voyez. Et donc, je vois un homme, pardon de dire ça, mais normal. C'est-à-dire...
Là, vous me parlez de qui, là, de Pinochet maintenant ou d'Allende? On est toujours ça,
Allende. Allende, normal. Et quand on posait des questions sur le chef d'état-major et l'armée chilienne, on nous répondait « Non, il n'y a pas de danger, vous inquiétez pas, vous inquiétez toujours, vous, les Français, mais vous rendez compte, on a eu 90 ans de démocratie, alors que les autres pays ont fait des pronunciamentos. Vous avez eu Perón d'un côté, vous avez eu dans tous ces pays des révolutions. D'ailleurs, Marcel Hamon a chanté ça. L'Amérique centrale et même le Mexique. Il y avait toujours un Mexicain basané ou un Bolivien basané qui prenait le pouvoir dans ces pays. Et là, Allende est là et il fait des réformes de Front populaire.
Ouais.
Bon, et il est devant nous, et il nous embrasse, et il est optimiste, parce que, on oublie de le dire, mais il avait perdu les premières élections législatives, mais il a gagné les suivantes. C'est-à-dire, c'est vraiment un putsch, c'est la main de Kissinger, c'est pas seulement la main de la CIA. Et pourquoi les Américains interviennent? Parce qu'ils avaient laissé faire. Ils se sont pas souciés des élections. Ils croyaient pas que Salvador Allende et les socialistes l'emporteraient. Et puis ils ont découvert, au fond, et ils ont craint, ils ont eu peur, vous l'avez dit tout à l'heure, d'une contagion.
Évidemment.
C'est-à-dire, c'est Castro qui émigre d'une certaine façon, il y a des communistes, etc. Faut se débarrasser de ce régime-là. Et, mieux que ça, vous avez aussi parlé du cuivre et vous avez eu raison, 3e producteur du cuivre de la planète, et le cuivre vaut aujourd'hui quasiment de l'or, hein, si l'on peut dire. Mmh. Et la Kennecott, c'était une société, c'était des Américains très gentils qui avaient dit, écoutez, vous êtes chilien, vous n'êtes pas des industriels, vous êtes des agriculteurs. Nous, on va l'exploiter, votre cuivre, on va vous aider. On va vous aider. Et voilà que, évidemment, dans son programme de Front populaire, Allende veut une réforme agraire et il l'obtient. Il ajoute, il multiplie les salaires plus 40%, plus 60% et il l'obtient. Et il veut nationaliser, il nationalise les banques et il nationalise la Kennecott, la mine de cuivre.
Bon.
Insupportable pour les Américains.
Oui.
Donc il faut étrangler ce type-là.
Alors ça nous renvoie quand même à ce que vous disiez tout à l'heure. On vous a dit, mais vous les Français, vous avez peur. Mais il y avait de quoi quand même, parce que c'était un pari complètement fou. La réforme agraire, avec les grands propriétaires, les États-Unis qui ont un œil sur l'affaire, c'était extrêmement dangereux comme programme.
Ben oui, mais attendez, c'était le système latifundière. C'est-à-dire, vous comprenez pourquoi? Ça a été extraordinaire, la révolte des casseroles, quand on l'explique. C'était justement des femmes qui faisaient pas la cuisine, qui manifestaient avec des casseroles. Là, j'ai entendu des types qui disaient la réforme agraire, mais... Vous avez donné le chiffre, une centaine d'hectares, c'est-à-dire qu'on partageait les latifundias, c'est-à-dire des gens qui avaient des propriétés immenses, pendant que le Chilien moyen, dans une société où il y avait 3 classes. Il y avait une classe misérable, les Indiens Mapuche du Sud, il y avait une bourgeoisie, commerçante, marchande, intelligente, éduquée, regardant les pays voisins, enfin bref, c'était pas des rouges, c'était pas... Il y avait une classe moyenne, comme en France. Et ils nous disaient, nous avons une société à la française. Et donc on a eu... ça a été terrible. C'est que, imaginez un général français qu'Aliende, dont Aliende fait de chef d'état-major. Moi, je l'ai vu, Pinochet. Bon, il avait l'air d'une culotte de peau, hein. Il avait l'air, il ressemblait à tout le monde. Et je ne penserais pas que j'allais vivre, on allait vivre ensuite avec cette espèce de, pardon de dire ça, mais cette espèce de salaud. Parce que, il a pas tué...
Ah, c'est un des grands affreux de la planète, c'est clair.
Il a pas tué 200 personnes. Vous savez comment il a traité ses opposants? Les chefs de l'opposition.
Parce qu'on sait, c'est séquestré, dans les torturé avions. Dans les stades. Oui, on les jeté.
Attendez, ouais. Dans les avions, on ouvre la trappe et on les fait tomber dans la mer.
Videla faisait ça en Argentine aussi.
C'est génial de faire ça, parce que comme ça, on ne retrouve pas les corps, on ne retrouve rien. Ouais. Et c'était un dictateur, c'était un coup d'État scandaleux, moderne, dans une société moderne, dans une société rappelant la société française. Enfin, moi... votre émission s'appelle Affaires sensibles. On est quelques-uns encore à rester sensibles à cette révolution démocratique, parce que c'était une révolution démocratique. Si vous voulez, pour être court et simple, Allende, c'était Mitterrand.
Ah, alors, à ce propos, Yvan Levaille, à ce propos, il se dit que... alors, vous avez vu la fuite des capitaux, hein, quand Allende arrive. Vous vous souvenez de la fuite des capitaux en 81, quand François Mitterrand est arrivé. Ouais. Et il se dit que Mitterrand disait... c'est pour ça qu'il a créé le GPRP, le groupe de protection. Ouais. Je peux finir comme Allende, c'est vrai, ça?
Bah oui.
Non, mais c'est intéressant, expliquez-vous.
Oui, sauf que...
Oui, le parallèle...
Non. Mais il y a des gens qui, en 81, quand Mitterrand arrive au pouvoir, on craint... parce qu'il y a une partie de la droite qui est très républicaine, Dieu merci, mais il y avait une partie de la droite qui ne supportait pas l'idée d'avoir, écoutez, un chef d'État socialiste pendant 7 ans au pouvoir et avec des communistes. Donc, il y a eu la même idée et elle n'était pas dissible. Ouais. Moi, je vais vous donner la mienne. Hein. J'étais journaliste. Justement, la mort d'Aliende m'a fait craindre jusqu'en 83, je sais pas si je peux dire ça à un micro, bah si, je vais le dire. Moi, je me suis dit, Mitterrand va être assassiné. Ouais. Et il ne l'a pas été, vous savez pourquoi? Parce que, au fond, il était plus modéré. Et il a convenu, quand même, deux septennats, fallait le faire pendant 14 ans.
Et puis,
là, c'est Pinochet qui a tenu longtemps. Hein.
Et par rapport aux États-Unis, alors autant Allende est dans une position très périlleuse par rapport aux États-Unis, autant François Mitterrand, dès le début, a montré aux États-Unis, avec une affaire d'espionnage, hein, notamment, que la France allait être un allié tout à fait convenable, qu'il n'y avait aucun problème. Donc, ce n'était pas tout à fait la même situation, mais il y a ce parallèle quand même.
Je veux juste vous dire, parce que ça va beaucoup vous amuser, Edgar Faure au Chili, il venait d'être viré, il avait refusé à Pompidou, il avait été ministre de l'éducation du général de Gaulle après 1968. Hein. Mm-hmm. Moi, c'est là que je l'ai connu. Hein. Mm-hmm. J'ai connu Edgar Faure, 68, 69, etc. Et en 70, pour l'émission de Prestige, il me dit, vous allez venir avec moi en 71. Et il dit à mes chefs bien-aimés d'Europe 1, j'emmènerai Yvan Levaille. Mm-hmm. Et je me suis dit, je ne vais pas y aller. Et à l'époque, les publicitaires, ils payaient une émission de 2 heures. Et puis on les entendait plus. Aujourd'hui, ils sont partout dans l'information. Bon, à l'époque, ils payaient une émission. J'aime vous dire, j'ai eu une très belle vie. J'ai travaillé comme une bête dans ce Chili. C'est un pays merveilleux. Vous y êtes allé. Ouais, c'est un pays de toute beauté. Et je dois dire, Edgar Faure m'avait simplement dit une chose. Oh ben, dites donc, si jamais je vais passer à la télévision, alors ne dites pas que je ne suis plus ministre de l'Éducation nationale. Il me croit ministre, mais il n'y aura pas un Chilien qui saura si je suis encore ministre de Gaulle ou pas.
Vous l'imitez bien. Vous savez que, vous le savez, j'imagine, Edgar Faure est mort le 31 mars 1988. Je m'en souviens parce que c'était mon premier journal sur France Inter.
Bon.
Voilà.
Allons.
Je vais vous raconter une histoire, Yvan Levaille, que les auditeurs vont partager. Il nous a
Dites un tout petit mot de Costa Gavras.
Dites-le vous.
Non, écoutez, Costa Gavras s'est mobilisé avec tout le monde, avec son prince, bien sûr, avec Simone Signoret, avec Montand, avec... Il y a des tas de gens. J'ai envie de dire que le Chili a ému passionnément les acteurs qui avaient une conscience et beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. Voilà. Mais ça, et Costa, son film magnifique, c'est Missing, je crois, c'est ça. Ouais. Je ne me trompe pas sur le.
Non, c'est pas Missing. Je ne crois pas. C'est pas Missing. On va vérifier, mais c'est pas ce film-là. Je vais raconter une histoire, Yvan Levaille. Donc les auditeurs vont partager. Il ne vous a pas échappé que dans 15 jours commence la Coupe du Monde de football, qui est le plus grand événement sportif. Vous savez, plus suivi que les Jeux Olympiques. Et figurez-vous que pour la Coupe du Monde 74, le Chili et l'URSS sont tombés dans la même poule pour se qualifier pour la phase finale en Allemagne. Le 26 septembre. La rencontre se déroule au stade Lénine à Moscou. Ça se passe déjà pas très bien parce que le Chili a basculé. Pour l'URSS, c'est devenu un pays ennemi. Et le match retour, l'URSS ne vient pas jouer à Santiago. Et les Chiliens se qualifient pour la Coupe du Monde 74 en jouant contre personne. Il y a 40 000 spectateurs au stade de Santiago. Il y a une équipe sur le terrain et le capitaine de l'équipe du Chili va marquer dans le but vide. Voilà, comme quoi le football et la géopolitique parfois se rencontrent. Et alors il faut retenir le nom d'un héros chilien qui s'appelle Carlos Caselli, ailier droit de gauche, un homme de gauche qui refuse de serrer la main d'Augusto Pinochet et qui se retrouve dans les vestiaires du stade, il les connaît les vestiaires, pour se changer.
Ah oui,
là c'est pour autre chose. Oui. Il s'appelle Carlos Caselli. Faut retenir ce nom parce que c'est le nom d'un héros chilien pendant cette période trouble. Je ne sais pas. Oui, il me reste juste une minute pour vous poser une question. Yvan Levaille, vous ne savez. Oui.
Oui.
Vous ne savez peut-être pas plus que moi.
Je voulais vous dire surtout. Allez-y. Il y avait un film formidable qui fait que quand on arrive, vous êtes allé à Valparaiso comme moi.
Oui.
Je voudrais dire que Valparaiso est une ville d'amour à tout point de vue. Et ce film s'appelait « Nous irons à Valparaiso ».
Nous irons à Valparaiso.
Et j'invite vos auditeurs, qui sont nombreux, j'espère, à aller un jour au Chili, ils ne seront pas déçus.
Hey.
Aller à Valparaiso.
Et quand les marins passaient le Cap Horn, ils arrivaient à le passer, ils allaient se reposer à Valparaiso. Merci Yvan Levaille, à bientôt, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la démocratie assassinée, la chute de Salvador Allende, une émission préparée aujourd'hui par Adèle Imbert, que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr bien sûr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à toute l'équipe qui a préparé ces Affaires Sensibles cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Cara, Héloïse Davio, Simon Maisonneau et Adèle Imbert. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Nicolas Cazot.